Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Popopop, on a tendance à l'oublier, c'est bien sûr dans la vie de tous les jours cette locution rigolote qu'on utilise par exemple au pot de départ de Jean-Claude de la Comta, quand ce dernier tient absolument à vous servir un huitième verre de rosé alors que vous êtes déjà à un gramme d'œuf. Pop, lui faites-vous d'une voix pâteuse, mais ferme. Mais pop, c'est aussi une manière de dire qu'on en a assez, que la coupe est pleine, que ça dépasse les bornes, que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, en un mot comme en mille. Pardonnez ma trivialité, c'est pas le genre de la maison, qu'on en a plein le dos. Et il nous arrive parfois à pop d'en revenir à cette acception première pour signifier notre impatience à voir cesser certains comportements, certaines pratiques, sexistes, racistes, xénophobes, homophobes et j'en passe, et à profiter de notre petite tribune pour sortir de notre bulle de pop culture et nous frotter sans angélisme au vent mauvais de l'air du temps. Tiens par exemple, en posant cette question comme le fait notre invité, comment se fait-il que dans la vie les noirs soient partout et dans les films nulle part ?
France Inter.
Pop.
Antoine Decaune.
Au menu de Pop, aujourd'hui on s'intéresse au livre « Noir n'est pas mon métier » avec une de ses 16 actrices contributrices. Bonjour Aïssa Maïga.
Bonjour.
Et bienvenue dans Pop. À
merci.
Mes côtés, Charline Roux. Roux est votre métier, Charline ?
Non, c'est mon patronyme, tout simplement.
C'est votre patronyme.
Bonjour Antoine, bonjour Aïssa.
Bonjour. Bonjour Charline. Au menu de Pop également, le film d'animation Mutafukaz.
Le cinéma n'a jamais vu un truc pareil !
On en parle tout à l'heure avec son réalisateur Ron. Voilà pour le menu et je laisse à une voix du film Mutafukaz, dont nous allons parler tout à l'heure, le soin de lancer cette émission.
Salut, c'est Gringe. Pop. C'est parti.
Pop. C'est parti avec Gringe. Aïssa Maïga, vous le savez, toutes les radios ont leurs petites habitudes. Tiens, par exemple, il est fréquent d'entendre Henri de Lesquin dire sur Radio Courtoisie...
La musique nègre, c'est l'expression de l'âme des populations de race congoïde.
Mais ici, à Pop, nous avons, nous, l'habitude de demander à nos invités...
Pour vous. C'est quoi la pop culture, Aïssa ?
La pop culture, c'est à la fois le barmaid, le shaker et le cocktail.
Wow.
C'est celui par lequel votre soirée n'aura jamais la même tonalité.
Wow, ça plaît beaucoup. Ça
c'est très bien.
Charline,
ouais.
on valide très
fort. Je suis validée, je peux rester
oui,
pour l'émission.
Ne bougez pas.
J'ai eu très très peur.
Ça y est, c'est fait, le plus dur est passé. Aïssa Maïga, vous ne bougez pas, premier pop grec. Bon, qu'est-ce que je raconte ? Pop grec, j'ai dit ? Mais
ouais.
Non, parce que je pensais... Ouais, bon. Premier pop grec dans ce pop pour écouter un rappeur québécois qui s'appelle Loud avec le morceau 56K.
Keep it moving, I don't read gossip. J'ai déjà lu votre année, vous étiez pris dans le passé. Est-ce que les perdants peuvent me laisser gagner ma vie tranquille? Pourquoi vous disiez des mensonges sur un joueur de franchise? Tous vos héros gardent mon numéro sur Speeda. Hello, téléphone on whoever keeper. Mon gars, j'ai pas 1000 pieds si t'as pas 1000 piastres. It ain't no G-Pass pour un cheap pass sur la métropolitaine. Un pied dans le tapis rapide, une main sur le bras de vitesse. Deux doigts pour la politesse.
Yes.
On roule à haute vitesse pour get le 56K. Si tu sais pas c'est quoi, c'est pas c'est le money dance. On a déjoué la police jusqu'au métropolis. Je vous ai servi LRE pour oublier vos problèmes. Un peu de poudre aux yeux avant quelque chose de solide. Witness the second coming de la sérotonine. Stunting, braque les caméras dessus. Tu croyais que j'allais jamais revenir, t'en es jamais revenu. De la banquette arrière du taxi jusqu'au siège avant du Boeing. Pas besoin de savoir se conduire, where I'm going. I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. Just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. I said I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. Roule le papier contre le papier, jamais les mêmes. We eat a game paid, a game faded. What I call self-made, self-medicated. Aperçu au guichet, disparu dans un pays chaud. Beach chair, pichet, by the seashore, sure. Mais qu'est-ce que j'étais supposé faire en vacances? Tout ce que je sais faire, c'est faire des records, puis des faire des records. Oh my god. Est-ce que les backpackers sont encore nostalgiques? Guess où Jean-Sébastien back avec ses bons vieux classiques. Avec ce genre de flow que mes flows paient les chapeaux. But I keep the game on lock and that's childproof. I'm back on my bullshit. Entouré de des axes chaque jour et de jour J. On s'apprête à rouler sur Paris, smell at no cheese. Ils pensent tout ce que je suis ricain quand je leur parle de où je vis. On va prendre notre équipage, réduit sur Air France. Aucun joker,
un cas de perdasse. Ferme le hublot, la nostalgie au perdant. Mais on n'a pas de classe, mis à part la première classe. I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. Just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. I said I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. Roule le papier, compte le papier, jamais les mauvais. We eat a game paid, a game faded. What I call self-made, self-medicated.
"56K", morceau du rappeur québécois Loud. Est-ce que je prends l'accent québécois, Charline, pour annoncer la baseline de l'émission ?
Absolument pas.
Bien, alors sans accent, vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Nous sommes aujourd'hui avec l'actrice Aïssa Maïga. Mais qui est-elle, Aïssa Maïga de AAA ? C'est tout de suite dans son pop portrait. Ah oui, j'oubliais votre pop portrait, Aïssa, ben c'est votre portrait, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et c'est Charline Rourourou qui s'y colle.
Notre invitée est comédienne, c'est son métier. C'est donc avec une facilité et une grâce déconcertante qu'elle passe d'un rôle de maîtresse d'Arditi chez Claude Berry, dans L'un reste l'autre part, à celui de chanteuse de bar désabusée, dans le Bamako d'Abderrahmane Sissoko. Elle est aussi à l'aise chez ce grand rigolo d'Anneke, dans Cachet, que chez Chabat, dans À la recherche du marsupilami. Elle vit aussi bien dans un roman de Vian, filmé par Gondry, L'écume des jours, que dans un livre d'Olivier Adam, filmé par Lioret, Je vais bien, ne t'en fais pas. Elle séduit aussi bien Romain Duris dans Les poupées russes, que Romain Duris dans L'âge d'homme maintenant ou jamais. Elle vit indifféremment à Marly-Gaumont pour un film de Camini que sur la corniche Kennedy pour Dominique Cabrera, puisque je vous l'ai dit, notre invitée est comédienne. C'est son métier. Donc elle peut être princesse, mère, gangster, héroïne dramatique ou romantique, méchante, super, sainte, garce. Les possibilités sont infinies puisque je vous l'ai dit, comédienne, c'est son métier. Enfin, à une ou quelques nuances près pour quelques esprits étriqués. Elle est aussi accessoirement noire et actrice. C'est aussi la profession des 15 consoeurs avec qui elle publie. Noir n'est pas mon métier, il faut le répéter. Et c'est publié au Seuil.
Mm-hmm. C'est vous ça, Aïssa Maïga de AA ?
Ah oui, je me reconnais dans chacun de ces états.
C'est à peu près complet. Bien. Aïssa Maïga, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes seule chez vous ?
C'est flippant.
Enfin, je veux dire...
On est d'accord.
comment occupez-vous vos soirées ?
C'est une vraie question, donc.
Non, enfin bon, j'enfonce. Non, passons à votre pop-liste. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série et un jeu vidéo pour le livre. Aïssa, vous avez choisi Les Désorientés, un livre écrit par Amin Malouf, paru en 2012. Ça fait 25 ans qu'Adam n'est pas retourné dans son pays natal, 25 ans qu'il vit à Paris, où il est un historien reconnu. Une nuit, il est réveillé par la sonnerie du téléphone. L'appel vient du pays où il est né, où il a grandi. L'un de ses plus proches amis de jeunesse est à l'agonie. Il s'appelle Mourad et avant de mourir, il voudrait revoir Adam, avec lequel il est brouillé depuis toutes ces années. Avant que vous nous expliquiez pourquoi vous avez fait ce choix, Aïssa, l'auteur Amin Malouf nous parle lui-même de son livre.
Quand on revisite sa vie, comme c'est le cas des personnages de roman, il y a tout, il y a des moments tristes, des moments de désarroi, il y a des moments de bonheur qu'ils ont connus, qu'ils racontent et parfois qu'ils revivent. Et je crois que la vie est faite de tout cela. Même dans les périodes les plus difficiles, les plus sombres, il y a des moments de bonheur. C'est la condition humaine.
Amin Malouf, parlant des désorientés, qu'est-ce qui vous plaît tellement dans ce livre, Aïssa Maïga ?
C'est ce rendez-vous que ces personnes avaient, sans le savoir, des gens qui se sont connus pendant leur jeunesse. Et le roman commence à Paris. Tous ces personnages sont éclatés. Certains sont aux États-Unis, d'autres au Liban, d'autres encore à Paris. Et ils vont se retrouver à la faveur d'un des grands événements de la vie. En gros, il y a les mariages, les naissances et la mort. Et là, cette fois-ci, c'est la mort de l'un d'entre eux. Et c'est cette nostalgie sans aucun pathos avec laquelle Amin Malouf réunit tous ces personnages qui, tous, quand ils se retournent, revoient des scènes de leur jeunesse. Là, enfin, c'est hyper vivant, c'est effervescent, c'est extrêmement touchant. Et au fond, c'est politique. Et Amin Malouf a travaillé avec mon papa, ou mon papa a travaillé avec Amin Malouf. Il était journaliste, tout comme Malouf l'était
à
Jeune Afrique. Et du coup, moi, c'est aussi une façon, même si mon père n'était pas du tout oriental, il n'était pas du tout libanais, mais c'est une façon de revisiter les années de ces gens qui ont eu une jeunesse faite d'idéalisme, d'absolu, de lutte pour leurs idées. Et puis, c'est extrêmement bien écrit.
Très bien, voilà pour le livre. Pour la série, vous choisissez une série de David Simon, The Wire, diffusée sur HBO entre 2002 et 2008. Une série qui se centre autour du trafic de drogue dans la ville de Baltimore, générique. Alors Aïssa, il faut savoir que The Wire est très souvent cité dans la pop list. Il va donc falloir être meilleur que les autres pour défendre cette série ici. Aïssa, vous jouez.
Alors, Baltimore, moi j'y suis jamais allée. La première fois que j'ai lu un truc sur Baltimore, c'était dans l'autobiographie de Frédéric Douglass. Frédéric Douglass, c'est une figure hyper connue aux États-Unis. Et c'est cette esclave qui vit dans une famille blanche. Et cette femme blanche, la maîtresse, est une progressiste. Et alors qu'elle enseigne à son propre enfant, qui est blanc, la lecture et l'écriture, il y a cet enfant, l'autre, qui est métisse, qui est Frédéric Douglass, qui absorbe tout. Et puis en gros, il est génial. Il apprend à lire, à écrire, alors que c'est formellement interdit aux esclaves. Et il s'enfuit de Baltimore pour partir dans le Nord. Moi, c'est ça l'image que j'avais de Baltimore. Et quand j'ai découvert The Wire, j'ai découvert Baltimore aujourd'hui. Alors que pour moi, Baltimore, c'est une ville qui est figée dans le 19e ou début du 20e siècle, quoi. Et donc, j'ai découvert toutes les couches. Mais c'est un truc de dingue, cette ville, avec cette communauté noire, pour la plupart, hyper défavorisée, dans laquelle la jeunesse fait tout pour s'en sortir, y compris l'illicite. Et puis, c'est ces journalistes absolument incroyables, véreux pour certains, brillantissimes, ou les deux pour d'autres. Et puis, c'est plein d'autres choses que je vais oublier, mais là, ça va être beaucoup trop long. Moi, je peux parler de The Wire pendant...
Mais c'est la première fois qu'on nous justifie le choix de cette série par la ville, en fait.
C'est vrai ?
Oui, absolument.
Ah !
Oui, d'habitude, c'est les personnages, l'enquête, l'écriture.
Idriss Elba.
Très bien. L'angle de la ville nous convient tout à fait. Alors, passons au film. Non, vous l'avez très bien défendu, Aïssa.
Merci.
Bravo. Passons au film. Le film, c'est Get Out, film d'horreur, sorti en 2017, réalisé par Jordan Peele, Oscar du meilleur scénario original cette année.
Est-ce que tu fumes devant ma fille ?
Je vais arrêter de fumer. Elle va t'en débarrasser. Par hypnose. C'est bon, je crois que ça va aller.
Apparemment, il y a plein de frères qui sont portés disparus dans le coin.
Je suis cool.
Attends, ça te fait pas flipper ?
Ça fait plaisir de voir un frère ici.
Tire-toi.
Pardon ?
Tire-toi !
Ne gâchons pas la matière grise.
Aïssa, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, est-ce que vous pouvez nous en faire un pitch rapide ? Je vous propose une petite ambiance pour vous aider.
D'accord.
Allez-y.
Un couple, elle est blanche, il est noir, ils s'aiment. Jusqu'ici, tout va bien. Ils partent en week-end dans cette famille blanche, progressiste. Ils votent même Obama. Et tout à coup... tout à coup, t'es dans ton siège et t'as peur parce que tu sens que ça va partir en live. Et ce qui est hyper fort dans ce film, c'est que formellement, t'es vraiment à la fois dans du Hitchcock et puis dans vraiment le cinéma d'horreur que je connais très mal. Je connais très mal parce que j'ai peur.
J'ai peur, oui. On est deux.
Mais voilà. Et c'est l'histoire de cet homme qui va comprendre pourquoi il est là. Et c'est une espèce de radiographie de la société américaine à travers le prisme de la race, avec des guillemets en français. Et c'est un film absolument jubilatoire, hyper flippant. À voir et à revoir.
Moi qui m'a fait très 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 peur. Ouais, bravo, votre pitch était à la fois efficace et remarquable. Bravo Aïssa. On continue cette pop list avec le jeu vidéo. Et pour vous, le jeu vidéo c'est... Tekken, un jeu de combat sorti en 94. Tekken, vous Aïssa Maïga, alors que vous avez l'air si douce.
Ah oui, non mais Tekken, ce qui est bien avec Tekken, c'est qu'il y a plein de personnages différents.
Voilà.
C'est un jeu de rôle en fait. Tu peux devenir n'importe lequel de ces personnages.
Avec lequel vous avez cassé des jambes du coup.
Ah ouais, non mais j'ai cassé des jambes, j'ai brisé des coups.
On dirait pas.
J'ai rompu des colonnes vertébrales et j'ai fait ça bien. J'ai fait ça bien et je peux dire que... Non, honnêtement, alors là, je ne veux pas être modeste du tout. Je déchire à Tekken.
Vous déchirez à Tekken.
Ah non, mais je...
Fin de citation, Aïssa Maïga, dans Pop Pop Pop. Aujourd'hui, je déchire à Tekken. Très bien. Et finissons votre pop list, si vous le voulez bien, Aïssa Maïga, avec cette chanson.
Was wrapped up in clover. The night I looked at you,
Il s'agit d'Etta James, et là le morceau c'est At Last, que nous avons choisi parce que vous nous avez dit, bon, en fait, l'œuvre entière d'Etta James.
Oui, j'adore Etta James. Alors c'est vrai que dire ça après avoir parlé de Tekken, avoir dit toutes les horreurs qui sont sorties de ma bouche, j'avoue que je suis complètement consciente du manque de crédibilité que j'ai à cet instant-là. Mais non, j'aime beaucoup parce que, en fait, ce que j'aime chez Etta James, d'abord c'est son nom, Etta James. Ça fait vraiment diva, de la soul, enfin, voilà. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'elle est dans cette lignée des... Oh, cette chanteuse avec une fleur comme ça...
Billie Holiday.
Billie Holiday. Et l'autre... Oh non, mais je n'ai que deux trous de mémoire, c'est infernal. Mais vous voyez, de ces grandes chanteuses afro-américaines... Gilbert Montagnier, très bien. Qui raconte la condition féminine.
Aretha Franklin, oui.
Voilà,
oui, oui,
et qui racontent leurs états d'âme. Et à travers leurs états d'âme, c'est la condition des femmes qu'on... Ah, c'est... Enfin, moi, je les trouve bouleversantes, ces chanteuses.
Alors, je résume. Amin Maalouf, The Wire, Get Out, Tekken, Etta James. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture.
Oui.
Et ça nous donne ce résultat étrange.
Quand on revisite...
Elle va t'en débarrasser.
Il y a des moments de bonheur.
C'est bon, je crois que ça va aller.
Je crois que la vie est faite de tout cela.
Attends, ça te fait pas flipper ? The sky's above the blue. Will I beg your
pardon ? Tire-toi ! K.O. C'est la condition humaine.
Voilà ce qu'il y a dans votre tête, Aïssa Maïga.
Ouais, ça ressemble à un chaos. En fait, c'est un mélange de grande douceur.
Ouais.
Et puis un truc un peu vénère, hein, quand même.
Exactement.
Et d'absurde.
Et ça vous représente tout à fait. Bien, Aïssa Maïga, avant de parler du livre Noir n'est pas mon métier, on va écouter la musique sur laquelle vous avez retourné le tapis rouge de Cannes il y a quelques jours. Rihanna. Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
To the universe as we moonshine and my lead, feel the warmth. like a diamond. So shine.
Diamonds de Rihanna dans Pop 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 sur France Inter. Aïssa Maïga, Diamonds de Rihanna, c'est la musique sur laquelle vous avez gravi les marches à Cannes en compagnie de 15 autres actrices avec qui vous co-signez Noir n'est pas mon métier. C'était un moment fort et symbolique. Est-ce que la caisse de résonance cannoise a eu les effets escomptés ?
Et au-delà. Ça a été un moment incroyable pour nous parce que on a travaillé toutes ensemble dans le secret pour écrire ce livre sans rien dévoiler à personne. Et puis on s'est organisé pour être présente à Cannes sans savoir au fond comment ça allait être reçu. Mmh. Et la presse en France et à l'étranger nous a accueillis d'une façon incroyable. Et puis le public sur les réseaux sociaux, dans les rues, dans les transports, c'est vraiment un phénomène pour nous ce qui s'est passé.
Alors j'en reviens à ce livre « Noir n'est pas mon métier » donc co-écrit avec 15 autres actrices et édité aux éditions du Seuil. Et j'en reviens à la question que je posais tout à l'heure en fin de monologue et que vous vous posiez vous-même il y a déjà 20 ans. Comment se fait-il qu'il y ait des Noirs partout et au cinéma nulle part ? C'est ça le point de départ du projet ?
Oui, le point de départ c'est ma propre expérience. Ça fait 20 ans que je suis comédienne et c'est une question que j'ai rencontrée tout de suite. J'ai été confrontée à ça immédiatement, dès que j'ai mis un pied dans le cinéma. Et c'est une question qui m'a toujours poursuivie. Parfois, j'ai essayé de l'oublier. Parfois, j'ai pris la parole. Et comme d'autres, j'étais loin d'être la seule sur ces questions-là. Et puis, au bout de 20 ans, quand même, c'est long, non ? Et j'ai eu vraiment besoin de prendre la parole en tant que comédienne, évidemment. Parce que quand je me retourne, il n'y a presque personne qui me ressemble. Et puis, j'ai des enfants. Donc, c'est aussi en tant que mère. Parce que mes enfants vont un jour rentrer dans le monde du travail. Et l'idée qu'ils puissent être discriminés du fait de la couleur de leur peau, c'est un truc qui m'est évidemment mais insupportable. Et puis, c'est aussi un cri de citoyenne. Parce qu'au fond, je suis française, c'est mon pays. Et la question de l'égalité est au centre.
Mais vous avez le sentiment que ça a bougé dans le bon sens depuis 20 ans ?
Ça a bougé un tout petit peu, à pas de fourmi. Ça va beaucoup trop lentement. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui commencent à ressembler à une sorte de génération sacrifiée. C'est pas la première. Donc pour moi, il y a quand même urgence à faire en sorte que l'égalité ait un vrai sens, même en dehors de la sphère du cinéma.
Mais alors, est-ce que vous pensez que cet ouvrage aurait eu le même écho ou aurait été possible sans le mouvement de libération de la parole des femmes, Salvateur, auquel on assiste depuis les méfaits dévoilés de L'autre port, de producteurs de Sinistre Mémoire ?
Oui.
Est-ce que ça participe ?
Alors, oh là, vous l'aimez pas.
Qui
On sent de la partialité dans cette question.
Là, oui.
En fait, j'ai écrit un texte l'année dernière, justement par rapport à tout ça. J'avais besoin que ça sorte comme ça. Et puis, je suis partie en tournage, j'ai fait ma vie, parce que je pense pas non plus tout mon temps à penser à ça. Puis en rentrant de tournage, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire de ce texte ? J'aimerais bien que ça devienne quelque chose. Et entre-temps, effectivement, l'affaire Weinstein avait éclaté. Et je pense que forcément ça a joué, parce que le fait de voir toutes ces femmes sur la planète entière, parce que des mouvements MeToo, il y en a eu partout, en Inde, au Kenya, aux États-Unis évidemment, en France. Et du coup, je pense que ça a imprimé l'idée d'une action collective féminine et féministe.
Mais il y a encore du boulot, parce que j'ai lu par exemple dans le journal Le Figaro que la surreprésentation des femmes avait fait baisser le niveau du festival 2018. Je vous cite même le journaliste, on se serait cru dans un wagon japonais interdit aux hommes. Bon, en même temps, c'est vrai qu'il y a peu de noirs au Japon. Je ne sais pas, je n'ai pas son nom là. Ah, je n'ai pas balancé. Non, mais vous voyez ce que je veux dire.
Oui, je pense qu'il y a forcément des gens que ça dérange, ça pique un peu de sortir de sa zone de confort. Il y a des gens qui allaient au Festival de Cannes depuis toujours sans se poser aucune de ces questions-là. Et aujourd'hui, c'est quand même une majorité qui prend la parole. Les femmes sont quand même majoritaires sur les hommes. Aujourd'hui, que cette nouvelle majorité qui jusque-là était assez silencieuse prend la parole, forcément, ça crée des réactions, mais ça, c'est normal. Faut pas...
Qu'est-ce qui se passe avec les rôles proposés aux actrices noires? C'est toujours des rôles qui correspondent à certains stéréotypes?
La plupart du temps. C'est-à-dire qu'il y a une toute petite frange de rôles qui sont vraiment pas stéréotypés. Mm-hmm. Mais sinon, tout le reste, et depuis très longtemps, ce sont des rôles qui sont assignés dans certains endroits. Donc, il y a des récurrences comme ça. Il y a la prostituée, la mama, la panthère, la gazelle, tout mm-hmm. ça, tout le vocable du, du safari y passe. Et c'est vrai qu'il y a une forme on a l'impression que c'est normal, que c'est une chose qui apparaît juste d'un scénario à l'autre, alors que quand on prend un tout petit peu de distance, mm-hmm. on se rend compte que ça a une origine, ça a une forme, ça a une histoire. L'histoire des représentations des femmes noires, pour ne parler que d'elles.
Mm-hmm. Oui, parce qu'en plus, si je puis me permettre, oui. vous cumulez les difficultés. C'est-à-dire, vous êtes noire et femme. Ça oui. fait quand même beaucoup pour une seule et même personne.
Oui, c'est beaucoup avec ça. Hein.
Alors, pour moi, ça se passe bien. C'est dans la tête des autres.
Oui, j'ai bien compris. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est différent pour les acteurs?
Alors, c'est pas si différent. Non, c'est pas si différent. Disons que, forcément, ce ne sont pas exactement les mêmes clichés qui sont
Non, mais on peut monter des projets aujourd'hui sur certains acteurs noirs.
Il y en a peu quand même. Oui, alors. La première chose, c'est que les clichés existent aussi pour les hommes. Et si on a voulu écrire ce film avec uniquement des femmes et des femmes noires, c'est que finalement, en focalisant sur un petit groupe, finalement, on se rend compte qu'on aborde plein de questions. La question de ce que c'est qu'être une femme, mmh. et puis de ce que c'est de ne pas appartenir à la norme dominante. Et du coup, ce qu'on raconte sur les actrices noires, on peut le raconter sur les actrices rebeux. On peut le raconter sur les actrices asiatiques. Alors là, on pourrait en faire 15 tomes. Et donc, concernant les hommes, la question, elle se pose de la même manière. Et en même temps, il y a quand même une nouvelle catégorie qui est en train d'apparaître, c'est l'homme dans les comédies. C'est vrai que l'homme noir dans les films, entre guillemets, normaux, je mets beaucoup de guillemets, on le voit quasiment jamais, c'est vraiment très rare. Par contre, quand il fait rire... Il n'y a aucun problème. Et l'homme noir qui fait rire, c'est aussi une figure qui a existé, notamment au temps des colonies, avec le personnage de... qui est le plus célèbre, c'est quand même le personnage du nègre de Yabon Banania. Là, on est en plein dans la pop culture. C'était quelque chose qui était extrêmement populaire.
Ou le sujet du film de Roche Dizem, Chocolat.
Exactement. Mmh. Et du coup, c'est vrai qu'on aurait pu rassembler plein de gens dans ce livre et... Bon, on a eu un mois pour l'écrire.
Vous en donnez quelques exemples dans le livre, mais quelle est, par exemple, la réplique la plus trash que vous ayez entendue dans le monde du cinéma?
Celle que j'ai entendue... Enfin, honnêtement, la réplique la plus trash, je l'ai lue dans le livre et je l'ai découverte. C'est une phrase qui a été dite à Nadège Bosson-Diagne, qui est « T'es vraiment intelligente pour une noire, tu aurais mérité d'être blanche. ». Là, je dois dire, honnêtement, je m'incline. Non, je n'ai pas...
Difficile à topper.
Voilà, j'ai entendu plein de trucs, mais celle-là, franchement, je trouve qu'elle recouvre tellement de choses dans une seule phrase. Le fait d'être intelligente pour une noire, enfin voilà. Enfin, on n'a même pas besoin d'expliquer. Et le mérite d'être blanche, enfin bon, voilà.
Les choses évoluent lentement, dites-vous, mais elles évoluent quand même. Qu'est-ce qui pourrait faire que les choses s'améliorent?
Vous avez envie
rapidement.
De me faire parler des quotas, vous? effectivement, la question des quotas se pose. Moi, je suis en pleine interrogation là-dessus. J'ai pas de certitude. La seule certitude que j'ai, c'est que j'ai vraiment besoin d'avoir des échanges là-dessus avec à la fois des universitaires, les gens qui font des recherches là-dessus, les gens qui font le cinéma, réalisateurs, producteurs, financiers, etc. Les castings aussi qui ont un vrai rôle à jouer. Et c'est vrai que la question des quotas se pose de plus en plus dans les milieux féministes, dans le cinéma. C'est vraiment une question qui va être discutée là, c'est vraiment de l'ordre de l'actualité toute proche. Et forcément, quand on parle de quotas dans la parité, la question est de savoir si en termes de diversité, c'est pas aussi un des leviers possibles. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses à inventer qui peuvent être des quotas ou des politiques incitatives. Il y a beaucoup de choses à inventer qui sont des solutions à la française.
Alors, à la française, justement, ça tombe bien que vous en parliez parce que les choses avancent lentement chez nous. On a parfois l'impression qu'elles avancent un peu plus vite, notamment outre-Atlantique. Le monde des médias américains, notamment, compte en son sein des femmes noires surpuissantes, telles que Oprah Winfrey ou la showrunneuse Shonda Rhimes, qui est à la tête d'un empire série colossal et qui met souvent en scène dans ses shows des femmes noires et puissantes, que ce soit dans Scandal, How to Get Away with Murder ou même Grey's Anatomy. Est-ce que ça fait partie des modèles ou des parcours en tout cas intéressants?
Ça fait partie des inspirations. Après, des inspirations, il y en a dans beaucoup d'endroits, mais c'est vrai que des figures de femmes noires dans les médias très fortes, comme vous le disiez, ça n'existe quasiment qu'aux États-Unis. En France, il y a des présentatrices qui, sans doute pour certaines, sont des productrices aussi, mais ce n'est pas une figure qui est spécialement mise en avant. Et en plus, on n'est pas dans une société communautaire dans laquelle on met en avant la couleur de peau des gens. Et ce que je trouve intéressant quand même, c'est l'idée de se demander pourquoi ça n'existe pas ici.
Vous avez la réponse ?
ça va être long.
Voilà, on parlait de Shonda Rhimes. Ces séries, hein, les séries de l'Empire Shondaland, sont diffusées aux États-Unis sur ABC, qui est une grosse chaîne généraliste américaine. Et voici ce qu'elle a à dire quand, dans une de ses conférences, on en vient à lui parler de diversité.
Shondaland est le reflet du monde. Tout le monde peut s'y voir quand il allume la télé le jeudi soir. Ce n'est absolument pas une décision particulière ou difficile que j'ai prise. C'est une décision humaine, parce que je suis humaine. C'est incroyable qu'on me parle de ça tout le temps. Comme si c'était une innovation que la télévision ressemble au monde normal.
Ça donne une piste de réflexion sur la question précédemment posée ou pas ? Ça paraît simple, dit comme ça.
Mais c'est simple, mais oui. En réalité. C'est très simple. Et j'ai envie d'ajouter une chose, c'est que, par exemple, sur Netflix, les séries et les films français, hein, les contenus vraiment français, qui marchent le mieux sur cette plateforme internationale, sont celles et ceux dans lesquels les rôles principaux sont issus de la diversité, comme on dit. Les films français qui s'exportent le mieux à l'étranger sont les films dans lesquels il y a énormément de diversité. Et donc, ce que ça raconte, c'est que le monde entier n'a aucun problème à voir des Noirs et des Arabes, pour ne citer que dans les films français. C'est en France que la question se pose. Mmh. Donc la France est en retard sur elle-même, sur l'image qu'elle renvoie à l'étranger.
On a commencé par Cannes, alors on va terminer par Cannes. Vous avez, je le répète, fait cette montée des marches très remarquée il y a quelques jours. Mais comment a été accueilli le livre dans un festival qui compte forcément des producteurs qui distribuent ces fameux rôles stéréotypés, c'est moi qui ouvre les guillemets, peut-être les mêmes d'ailleurs que pointait, si je puis dire, Asia Argento à la cérémonie de clôture.
Alors ça, ce rapprochement, on n'engage que vous. je ne sais pas comment ils ont réagi. On a eu quelques signes de la part de gens du métier que je pourrais citer pour certains. Alain Chabat, Stéphane Guillon, Géraldine Nakache, Léla Becti et d'autres. Mais finalement, ça compte énormément pour moi. Amanda Sterz aussi. Mais je peux vraiment les compter sur les doigts de deux mains. Alors, je ne veux pas accuser les gens qui n'ont pas pris leur téléphone pour m'envoyer un texto de quoi que ce soit. Mais la seule chose que je constate, c'est le fait que le dialogue n'est pas instauré. Nous, on a pris la parole. Et moi, on prend la parole pour vraiment, c'est comme une main tendue, quoi. Et je pense qu'il va falloir qu'on fasse aussi le second pas, pas uniquement le premier, le second, pour inviter les gens à s'asseoir autour de la table et entamer cette conversation qui est indispensable.
L'invitation est lancée. Je vous en fais une, moi. Si nous faisions un film ensemble.
Allez !
Un film en noir et blanc.
Ouais. C'est quoi ?
Non ? Ah ben non, c'est un projet en noir et blanc.
Eh ben ouais.
Ben oui, lequel ?
C'est quoi l'histoire ?
Mais faisons. Ah ben je sais pas maintenant, l'histoire est à inventer.
Ok.
Ok, je vais m'y atteler.
Attention parce que je peux avoir plein d'idées.
Mais je sais que vous avez plein d'idées.
Il y aura majoritairement des filles dedans, comme dans
ah
la
bon
vie. Ah bah oui.
Ah bon, bah je vais réfléchir. Alors, noir n'est pas mon métier, c'est édité au Seuil. Aïssa, vous savez faire plein de choses, vous savez faire ça. Voilà.
Et c'est
voilà
tout faire.
Voilà. Voilà, il y a des femmes qui savent faire ça. Vous voyez bien, Charline.
Moi, je sais pas.
Ben voilà, vous savez pas. C'est pour lancer les pop news.
Une première bande-annonce pour Bohemian Rhapsody, biopic déjà décrié de Freddie Mercury, puisque le film aurait un poil tendance à omettre quelques éléments de la vie du charismatique leader de Queen. Ceci étant dit, la bande-annonce fait quand même un peu envie, et surtout pour ce moment que l'on imagine bien être la genèse du morceau Bohemian Rhapsody.
So now what? This is when the operatic section comes in.
Oh, the operatic section, yeah.
Mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me, for me.
It goes on forever, 6 bloody minutes.
I pity your wife if you think 6 minutes is forever.
Bohemian Rhapsody de Dexter Fletcher avec un Rami Malek assez saisissant, ça sort le 31 octobre sur les écrans.
Vous aimez le piano ? Je dirais même plus le piano virtuose. Eh bien, rendez-vous demain et jeudi soir à la Petite Halle à la Villette à Paris pour Pianology. Duo entre Jérémy Ababou, jeune pianiste franco-israélien, le coach, et notre gloire maison André Manoukian, compositeur, pianiste, animateur franco-arménien, l'élève. Une séance de travail en live à ne pas rater.
et deux nouveaux producteurs de poids pour le géant du streaming.
Hi, my name is Michelle Obama and I'm first.
L'ex-président américain et son épouse Michelle viennent de signer un deal avec Netflix sur plusieurs années afin d'y produire des documentaires mais aussi de la fiction, le tout par le biais de leur toute nouvelle société Higher Ground Production.
I'm Barack Obama and I approve this message.
Oh yeah.
Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
Merci Charline.
Je vous en prie.
Aïssa Maïga, vous restez avec nous avant d'accueillir Ron, le réalisateur du film Moutafoukaz. On écoute le tout dernier morceau de Kid Ismail, un morceau qui parle beaucoup de zigounette. Ça s'appelle Digmatized.
Digmatized is a condition, illness that will leave you all legs shaking, your walls trembling, and all you will need to hear is the bed rumbling. Don't act like you've never wondered what a good dick can do. I see you looking at hands, feet length, trying to figure out whether it's blessed or not. Cause we all know this shit is a weapon of mass pussy destruction. It will make you go places you've never thought you'd go. We all been there, nobody is immune. This is a real condition. You disturbed, you can't focus, and all you think of and about is the moment you will be back home and get it. Realize and get stretchy, no matter the size, not fake. You've been stigmatized, you've been stigmatized too late. You can't realize and get stretchy, no matter the size, not fake. You've been stigmatized. We'll be right back.
balls off.
Digmatized, tout nouveau morceau de Kiddy Smile.
Que vous traduiriez comment, Digmatized?
Je peux pas traduire, c'est les enfants qui écoutent. Okay. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de Pop Culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie de l'actrice Aïssa Maïga et vient de nous rejoindre Ron, alias Guillaume Renard, le co-réalisateur du très pop Moutafoukaz.
Bonjour à tous
et bienvenue.
Merci de m'avoir invité.
Alors Moutafoukaz, c'est quoi Moutafoukaz? C'est ça.
Mon nom c'est Angelino et toute cette merde autour c'est Dark Mid City. La ville où je suis né est probablement la ville où je vais mourir. Dark Mid City, DMC. Comme dégueu, merdique et crado. J'aurais pu continuer sans fin à traîner ma carcasse sans trop me poser de questions. Jusqu'à ce moment précis.
Il est temps de prendre ton envol, Angelino.
Qu'est-ce qui se putain de passe? Le cinéma n'a jamais vu un truc pareil.
Alors dans Moutafoukaz, Angelino est un jeune loser qui vit à Dark Mid City, une mégalopole sans pitié sous le soleil de Californie. Attendez, vous préférez peut-être le pitch en japonais ou en français? Parce que comme je sais que le film sort également au Japon.
Exact.
Alors je le fais en français ou en japonais?
Japonais, moi ça me tente
en japonais,
bien.
Ouais. Oh, c'est sérieux, ça n'a rien à
C'est une escroquerie, excusez-moi Antoine Decaune, je dénonce, c'est une escroquerie.
Bon, ok, je reprends en français. À
japonais
suite...
n'est pas son métier.
Si jeune et des japonais. À la suite d'un accident de scooter, lorsque son chemin a croisé par inadvertance la divine Luna, notre jeune Lascar commence à souffrir de maux de tête et d'étranges hallucinations. Il pourchassé par des hommes en noir, Angelino est finalement fait prisonnier et apprend la vérité sur ses origines. Il est mi-homme, mi-macho, une créature issue de la matière noire de l'univers. Rejoindra-t-il les rangs de ceux qui exploitent en secret les ressources du monde ou choisira-t-il un autre destin? Réponse: ah ben non, réponse demain parce que ça sort demain. Mais seulement si vous avez plus de 12 ans. Pourquoi ça, Ron?
Ben parce qu'apparemment, la censure en a décidé.
Quoi, il y a plein de cochonneries, c'est super violent.
Non, c'est pas. Alors, il n'y a aucune sexualité. Par contre, effectivement, c'est assez violent. C'est une violence graphique, presque poétique parfois. Mais, mais effectivement, c'est un film. Moi, j'appelle. Enfin, Moutafka, je le définis comme un film de genre qui fait hommage au genre, mais c'est aussi un dessin animé pour adultes. Dans le sens où, effectivement, dans les thématiques et dans la violence graphique, ça s'adresse pas à tout le monde.
Moutafoukaz, c'est un dérivé de Motherfuckers, hein, c'est
exactement,
bien ça?
Exactement,
d'accord, j'ai bien compris. Je me suis penché sur votre bio.
Ce qui explique donc pourquoi le moins de 12 ans, en fait.
Oui, d'accord.
Okay. Meilleur pitch, okay, best pitch ever.
Je me suis penché sur votre bio. Je sais que votre insulte préférée est Puta Madre. Pourquoi pas avoir donné ce nom-là au film, tout simplement?
Parce que c'est le nom du spin-off du film.
Ah, oh, d'accord.
Je suis en train de faire en BD.
C'est une saga. Vous l'avez dit, Moutafoukaz nous emmène à Dark Mid City, une sorte de double maléfique de Los Angeles. Qu'est-ce que l'original, cette ville-là de si particulier à vos yeux, et comment est-ce que vous avez conçu Dark Mid City?
Au cours de mes différents voyages aux États-Unis, j'ai découvert la face B de Los Angeles, quelque chose qu'on ne nous montrait jamais. Et j'ai vu que Los Angeles était... Moi, j'ai voulu une ville-monde, en fait, pour faire l'allégorie de l'humanité, dans tout ce qu'il y a de pire et de meilleur. J'ai voulu que tout se passe localement, et à savoir une ville comme Los Angeles, c'était idéal parce qu'il y a toutes les ethnies, toutes les cultures, donc c'est très bien. Et en plus, dans une ville comme Los Angeles, qui pourrit sous le soleil de Californie, il y a aussi un truc qu'il faut prendre en considération, c'est l'aspect communautaire, qu'on a peut-être du mal à comprendre en France, mais si on ne comprend pas le côté communautaire aux États-Unis, on ne comprend pas vraiment la société américaine. Et j'ai toujours considéré qu'une ville comme Los Angeles, avec ses quartiers, vraiment, les noms des quartiers de Los Angeles, c'est les noms de pays. Oui. Donc j'ai toujours considéré que pour des aliens qui voudraient envahir la Terre, une ville comme Los Angeles c'était parfait parce que tout le boulot était déjà fait.
C'est Babel, tout est là.
Exactement quoi.
Alors dites-moi Ron, il est noir votre héros, le petit Angelino, c'est bien?
Je sais pas si c'est bien.
Bah si c'est
pourquoi
bien.
Pourquoi vous voyez,
regardez? Je dis ça parce que vous voyez ça
je
bouge.
Je vois la mer, la censure. Hein.
Mais non mais ça bouge dans le bon sens. Non, il est noir ce petit personnage.
Ouais, il est noir.
Ah, c'est un personnage assez abstrait.
Mais bon, il n'a pas d'origine afro particulièrement, mais je me suis jamais posé la question. On va dire, pour moi, c'est graphiquement, je trouvais cool comme ça, et voilà. Et son pote, j'ai voulu créer des personnages qui soient totalement en marge graphique du reste de l'univers. Il y a une règle tacite dans Moutafoukaz, c'est que plus les personnages ont des proportions réalistes, plus ils sont dessinés de manière réaliste et plus ils sont dangereux. Mmh. Et eux, en l'occurrence, c'est trois losers aussi vilains que pas dangereux. Donc,
dessinés de manière presque naïve.
Voilà, et je voulais surtout autres, les, ouais. et je voulais surtout les isoler dans une ville complètement hostile.
Alors le film est aussi conçu comme un jeu, vous le dites vous-même, sur les idées préconçues portées par la culture pop avec de nombreuses références à l'imaginaire américain. C'est quoi votre Amérique d'adolescent à vous et est-ce que c'est celle-là qui transparaît dans Moutafoukas ?
Mais carrément, moi...
Je précise que je parle à un homme qui porte un t-shirt de Danny Trejo qu'on a vu dans le film de Robert Rodriguez.
Ils vendent des donuts à Los Angeles. Mais alors c'est, de toute façon, c'est un hommage à mes fantasmes américains. Ouais. Moi, j'ai grandi avec des séries américaines à la télé. Hein, donc, les décors américains, pour moi, ils étaient vraiment... Enfin, je veux dire, c'était les décors de tous les jours, hein, quasiment. Et puis, j'ai découvert en 92 les émeutes de Los Angeles. Et j'ai vu une ville en feu. Et pour des raisons que je ne comprenais pas à l'époque, parce qu'il n'y avait pas d'analyse en France. On ne nous expliquait pas le pourquoi du comment. On nous parlait aussi de gangs qui se réunissaient pour combattre l'autorité. Donc, c'est des choses qui m'avaient vraiment intimement marqué. De toute façon, dans Moutafoukas, le film, ça se ressent fortement. Et c'est vrai que Moutafoukas, ça traite aussi du folklore ufologique. Et le folklore ufologique, c'est aussi aux États-Unis qu'il est. Bon, on a des cas en France, hein, Valensole, Trans-en-Provence, mais c'est très terroir et pas forcément super exotique en termes visuels, quoi. Donc oui, c'est vrai que c'est une forme de dommage à mes fantasmes.
Je profite quand même de la présence d'Aïssa dans notre studio, parce qu'Aïssa, vous l'avez vu ce film,
oui.
Vous lui avez même remis un prix
mais
à Gérard
oui.
Mais
oui.
Vous pouvez peut-être nous en dire un mot alors.
Je faisais partie du jury du festival du film de Gérard May il y a quelques mois, et j'ai pris une grosse claque quand j'ai vu Moutafoukas. En termes de travail, de graphisme, d'animation, mais c'est juste un chef-d'œuvre. Mais honnêtement, c'est un sens du détail, ça fourmille, il y a une forme d'hyper-réalisme, un truc où on a l'impression d'être totalement immergé dans cette ville et en même temps un apport imaginaire qui est immense. Mais moi, j'ai adoré et j'étais hyper contente qu'on donne un prix à ce film qui ressemble à aucun autre et qu'il faut vraiment aller voir.
Et là, on parle d'animation traditionnelle, hein, à l'heure de l'image de synthèse à outrance. Vous avez fait le choix de l'image...
2D, à l'ancienne.
Ouais. C'est un travail d'orfèvre.
Et comme le rappelait Charny il y a quelques instants, ça a d'abord été une bande dessinée que vous avez dessinée et écrite, hein, Run, une BD aux influences comics et West Coast, avant d'en faire ce film que vous avez co-réalisé avec Shōjirō Nishimi. Comment ça se passe le travail à deux alors?
Bon, il y a déjà la barrière culturelle et la barrière de la langue. Hein, donc
ça,
déjà,
fait
il
beaucoup
faut...
quand même.
Alors, la clé, c'est la traductrice. Hein. Là, je veux dire, sans la traductrice qu'on avait, il n'y avait juste pas de film. Mais oui, c'est un gros travail. Hein, c'est un gros travail préparatoire parce que pour arriver à ce résultat, il a fallu 2 ans de pré-production, ce qui est juste énorme pour vraiment verrouiller à tous les niveaux le film. Bien se comprendre aussi. Shōjirō Nishimi, c'est quelqu'un qui veut vraiment comprendre. Parce que moi, je me suis rendu compte que la bande dessinée préexistante, il y a ce qui se passe dans les cases, mais il y a aussi ce qui se passe en dehors des cases, dont je n'avais pas, moi, conscience étant l'auteur. Donc, ce qu'on voit dans la bande dessinée, c'est quoi? C'est 30% de ce que je sais de l'univers. Donc, c'est vrai qu'il a fallu énormément partager, d'autant plus que les Japonais sont très domestiques, je veux dire, dans leur approche. Et il a fallu expliquer, ils sont pas du tout conscients de en tout cas ma vision de français sur les États-Unis, mes fantasmes par rapport aux États-Unis, il a fallu les expliquer et je me suis rendu compte qu'ils ne comprenaient absolument pas, par exemple, le concept de communauté qui est propre aux États-Unis.
Bon, écoutez, en tous les cas, le résultat était patent. On l'aura compris, c'est le film à voir demain. Oui, Aïssa, qu'est-ce que vous voulez dire encore? Dépêchez-vous,
elle est bavarde. Hein. Oui. Non, mais parce qu'en fait, tous les animateurs qui sont hyper forts partent justement à Los Angeles, ils sont absorbés par Pixar, etc. Tu vas rester avec nous en France?
Moi, je suis pas animateur, donc ça va, mais c'est
non,
vrai
mais, qu'effectivement... Non, pas animateur, mais non, mais tu vois ce que je veux dire.
Je vois ce que tu veux dire, mais c'est très difficile de faire du film. Bah, déjà, le film de genre en France, c'est déjà un débat en soi, mais alors le dessin animé pour adultes, c'est au cinéma, c'est juste impossible. Donc effectivement, les talents, à moins qu'ils veuillent se retrouver sur des séries pour les kids, pour la télé, malheureusement, c'est compliqué, quoi.
Bon, je sonne la cloche de la fin de la récré, excusez-moi, hein, Moutafoukas, ça sort demain, c'est le film à ne pas rater, mais c'est l'heure pour moi de descendre à la cave, chercher le dernier vinyle de l'émission. Allez, j'y vais. Qu'est-ce que c'est que cette musique? On dirait la musique de Pac-Man. Mais c'est la musique de Pac-Man, qu'est-ce qui se passe? Mais je crois pas, mais il y a vraiment Pac-Man dans ma cave et il bouffe mes poules. Hé, hey, oh, on va se calmer, là. Non, mais mes canards aussi.
Mais qu'est-ce que c'est que ce malade, un Pac-Man qui bouffe tout ce qui bouge? Au secours! Il y a quelqu'un pour m'aider, là? À l'aide! Henri! Henri, mon petit Henri, toi aussi, va te becter! Mais c'est un monstre, Henri! Non, Henri, mais c'est pas possible! Il a bouffé Henri. Non, faut que j'aille sauver Henri. Allez, j'y vais. Mais il vient vers moi maintenant! Ah non, mais non! Non, non, non! Mais tu vas me lâcher, saloperie! Mais au secours, mais il va me bouffer! Envoyez-moi des cerises pour le calmer! Hé, hey, envoyez de la musique aussi à un petit Dylan, là! Dépêchez-vous! Man thinks, cause he rules it us. He can do with it as he please. And if things don't change soon, he will. Oh, man has invented his doom. First step was touching the moon. Now there's a woman on my block. She'll just sit there as the night grows still. She'll say, who gonna take away his license to kill? Now they take him and they teach him and they groom him for life. Then they set him on a path where he's bound to get ill. Then they bury him with stars, sell his body like they do used cars. Now there's a woman on my block. She'll just sit there facing the hill. She'll say, who gonna take away his license to kill? Now he's helping for destruction. He's afraid and confused, and his brain has been mismanaged with great skill. Now all he believes are his eyes, and his eyes, they just tell him lies. But there's a woman on my block, sitting there in a cold chill. Take away his license to kill. Baby, noise maker, spirit maker, heartbreaker, backbreaker, leave no stone unturned. Maybe an actor in a plot, that might be all that you got. Tell your error you clearly learn. Now he worships at an altar of a stagnant pool. His reflection is fulfilled. Oh, man is opposed to fair play. He wants it all and he wants it his way. Now there's a woman on my block. She just sit there as the night grows still. She say, ooh, gonna take away his license to.
Bob Dylan, License to Kill, un morceau de 1983, extrait de l'album Infidels. Voilà, c'est là que les Athéniens s'atteignent. Merci Aïssa Maïga. Noir n'est pas mon métier, c'est édité aux éditions du Seuil. Merci de nous avoir rendu visite.
Merci.
À Pop Pop Pop. Et merci aussi à vous, Ron Mutafoukaz. Ça sort demain avec les voix d'Orelsan et de Gringe.
Merci.
Merci de votre visite. Demain dans Pop Pop Pop, une émission 2 en 1 avec eux. Sting et Shaggy seront nos invités. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yob à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme dit Milan, notre deuxième stagiaire du jour, à la fin de ses tutos coloriage sur YouTube.
Abonnez-vous à notre podcast. Et surtout, faut pas dépasser.
Mais bien sûr qu'il faut pas dépasser. Merci, mon petit Milan. Et merci à l'équipe de Pop Pop Pop. Ghislain Fontana à la réalisation, à la technique, Vincent Godard, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Fanny Leroy, Claire-Sophie Collet, nos attachés de production, à la programmation musicale, Djoubaka, Simon Arestat et Milan, nos stagiaires. Bonjour, Charline Vanhoenacker.
Bonjour, Antoine de Koun.
Qu'y a-t-il au menu de Bar Jupiter aujourd'hui?
Eh bien, nous recevons IBI avant qu'elle parte en tournée française. Ouh. Et européenne. Et on va parler notamment de Michelle et Barack Obama qui se lancent dans la production de films.
Oui, on vient d'en parler, nous. Hein.
C'est vrai?
Oui, enfin, c'est pas pour dire.
Ah ouais, mais on va approfondir le sujet, je vous ai trouvé un peu superficiel.
Approfondissez, ouais. Approfondissez. Bien, on vous retrouve dans un instant, juste après les infos.